Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en direct de la capitale américaine, vendredi 8 février 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, démission du perchoir de l'Assemblée nationale.
L'on ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances de nos concitoyens. Je ne suis pas homme à m'approcher comme un sapprophyte à un poste.
Important changement à la tête de l'armée burkinabé pour faire face aux attaques djihadistes.
Et l'armée burkinabé qui est par ailleurs accusée d'exactions sur des civils, le gouvernement s'en défend.
Les principaux points de l'accord de paix en Centrafrique sont finalement révélés.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal.
En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a annoncé sa démission de la tête du Parlement au cours d'une session extraordinaire. Ancien Premier ministre, ancien ministre de la Défense et ancien chef rebelle, il quitte le perchoir de l'Assemblée sans rien dire sur son avenir politique. Témoin de cet événement, notre correspondant Georges Ibrahim Tonkara.
À cet instant précis, je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
C'est devant 245 députés présents sur les 255 que compte le Parlement ivoirien que Guillaume Soro a rendu le tablier ce vendredi lors d'une session extraordinaire qu'il a lui-même convoquée. Guillaume Soro explique sa démission par sa volonté de ne pas trahir ses convictions, c'est-à-dire celle de ne pas adhérer au parti unifié mis en place il y a quelques jours par la coalition au pouvoir. Pour lui, il s'agit surtout d'éviter d'entrer en conflit avec l'exécutif qui réclamait son départ.
Refuser de démissionner conduirait immanquablement à la crise institutionnelle déstabilisante avec le cortège de dommages pour la nation. L'on ne peut risquer de mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrances de nos concitoyens. Je ne suis pas homme à m'accrocher comme un sapprophyte à un poste.
Que va-t-il faire maintenant après cette démission? J'entends, dit-il, me consacrer à la défense de la paix et de la démocratie.
Je demeurerai avec vous pour continuer à travailler à l'édification d'une Côte d'Ivoire riche et prospère qui repose avant tout sur un état de droit et des bases démocratiques solides. Je demeurerai avec vous pour continuer le combat du pardon, de la réconciliation et de la paix.
Cette démission de Guillaume Soro est diversement interprétée par les députés ivoiriens.
Au-delà des émotions que cela peut susciter, j'estime pour ma part qu'une telle décision relève de la satisfaction d'une obligation de cohérence et de conséquence.
On est en train de rentrer dans une république dans un état de non-droit, dans une république policière. Et lui, il n'a pas envie de faire subir des affres de cette dictature à la Côte d'Ivoire. Il a préféré rendre le tablier comme ils lui ont demandé.
Guillaume Soro n'a pas dévoilé ses ambitions pour le futur. Mais certains de ses proches affirment qu'il sera bien candidat à la présidentielle de 2020. Georges Ibrahim Tonkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et Guillaume Soro vient de tweeter disant qu'il est maintenant chômeur et demande qu'on lui apporte mensuellement 2 sacs de riz pour manger. Au Burkina Faso, le président Marc Roch Kabore a signé 8 décrets désignant un nouveau chef d'état-major de l'armée de terre et des nouveaux responsables à la tête des 3 régions militaires du pays, le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le colonel Gilles Bationo, instructeur commando et spécialiste des techniques d'intervention antiterroriste, devient chef d'état-major de l'armée de terre. Il était jusque-là commandant de la 1ère région militaire dans le nord. Le colonel-major Oumarou Sawadogo prend les rênes du groupement central des armées, chargé de la logistique. 3 colonels ont été portés à la tête des 3 régions militaires, le nord, l'ouest et le centre. 3 autres ont été nommés à la tête des opérations, de la formation et des renseignements. Le chef d'état-major général des armées a déjà été remplacé il y a 1 mois avec l'arrivée du général Moïse Miningou en lieu et place d'Oumarou Sadou. Le président a aussi changé les ministres de la Défense et de la Sécurité. Le Burkina Faso fait face depuis plusieurs mois à des attaques attribuées à des groupes djihadistes. 3 ont été perpétrées cette semaine, dont 1 mardi où 5 gendarmes ont trouvé la mort, le jour même où le président Kabore recevait ses homologues du G5 Sahel pour un sommet consacré à la lutte antiterroriste.
Et l'armée burkinabé est accusée de graves violations des droits de l'homme avec plus de 50 civils tués. Le gouvernement s'en défend et met au défi quiconque de porter les preuves devant la justice. Nous y reviendrons en partie magazine.
La situation sécuritaire reste volatile dans le sud-est et l'ouest du Niger, proche du Burkina Faso, du Mali et du Nigeria. L'ONU parle de la persistance des attaques meurtrières et des affrontements entre communautés locales qui ont fait une centaine de victimes en 2018. Plus de 2 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire.
Au Nigeria, la Commission électorale nationale a étendu le délai limite pour retirer les cartes d'électeurs. Décision prise à la suite d'une avalanche de plaintes. Les électeurs ont jusqu'au 11 février 2019, incluant les samedis et dimanches de 9h à 18h. Normalement, c'était aujourd'hui le dernier jour pour récupérer sa carte d'électeur.
Et des dizaines de personnes se sont réunies aujourd'hui dans Accra pour rendre un hommage au journaliste ghanéen d'investigation Ahmed Hussein Swale, tué par balle en janvier. Il avait révélé de graves scandales de corruption dans le monde du football africain. Hommes politiques, diplomates, journalistes ou membres de la société civile ont demandé à ce que justice soit faite.
Le contenu d'un accord de paix entre Bangui et les groupes armés a été dévoilé aujourd'hui, négocié à Khartoum à l'initiative de l'Union africaine. Cet accord vise à mettre un terme au conflit qui dure depuis 6 ans. Nathalie Barche.
Selon cet accord, le président de la République centrafricaine s'engage à mettre en place immédiatement après la signature un gouvernement inclusif. Plusieurs membres de groupes armés sont déjà ministres ou conseillers à la présidence. Une commission vérité, justice, réparation et réconciliation sera mise en place dans un délai de 90 jours. Elle sera chargée de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Les signataires s'engagent en outre à mettre en place des unités mixtes de sécurité pour une durée de 24 mois, composées de soldats et de combattants de groupes armés ayant suivi une formation adéquate de 2 mois. L'amnistie réclamée par les chefs de groupes armés n'est pas évoquée dans cet accord. La réintégration des chefs de groupes armés sera étudiée au cas par une commission mixte, précise le texte. Les anciens chefs d'État bénéficieront d'une loi sur le statut, une mesure que réclamaient l'ex-président François Bozizé et Michel Djotodia, qu'il a renversé en 2013.
Et Nathalie Barge a aussi recueilli la réaction de Serge Singa Bengba, député de Bangassou en Centrafrique.
Nous avons beaucoup souffert dans ce pays-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont dans les brousses, dans la forêt et qui souffrent de cette guerre. Et donc la signature de cet accord qui est censé ramener la paix ne peut que nous réjouir en tant que députés de la nation centrafricaine. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes par rapport à la justice. Je reprends cette réflexion de Confucius qui dit qu'il faut rendre le bien pour le bien et la justice pour le mal. Mais le temps de la justice est différent. Donc, pour l'instant, il faudrait que nous nous concentrions sur la reconstruction de notre pays, la cohésion sociale, le rétablissement de la paix. Et ensuite, la justice viendra en son temps et nous rendrons la justice pour le mal qui a été fait au peuple centrafricain.
Voilà, c'était Serge Singa Bengba, député de Bangassou en Centrafrique.
Dans le nord-est de la RDC, au moins 7 civils ont été tués à Beni dans une attaque attribuée aux ADF, Forces démocratiques alliées. Kizito Bin Angi, représentant de la société civile de la ville de Beni, dit que la tension est vive dans le quartier de Beni. Les habitants, surtout les jeunes, ont manifesté contre cette nouvelle tuerie.
Et des Soudanais ont manifesté aujourd'hui à la sortie de plusieurs mosquées après la prière hebdomadaire. Ils protestent contre la mort en détention d'un enseignant arrêté pour ses liens avec le mouvement de contestation antigouvernementale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les forces arabo-kurdes, soutenues par Washington, préparent un ultime assaut contre le groupe État islamique dans l'est du pays. D'après la coalition internationale, l'organisation djihadiste contrôle moins d'un pour cent de son califat autoproclamé qui couvrait autrefois de vastes régions en Syrie et en Irak. Des centaines de combattants islamistes et leurs familles sont désormais acculés dans la province orientale de Deir ez-Zor.
La ministre française des armées est arrivée à Bagdad, en Irak. Florence Parly doit discuter de l'avenir de la coopération militaire au moment où le groupe État islamique est en passe d'être défait en Irak et en Syrie. L'objectif est de conforter une relation de coopération et de partenariat avec l'Irak.
Et Téhéran a dévoilé aujourd'hui un nouveau missile balistique, c'était hier plutôt, d'une portée de 1000 km selon l'agence de l'armée. Par ailleurs, Le guide suprême iranien affirmait que son pays ne pouvait pas faire confiance à l'Union européenne, tout comme aux Amériques. L'ayatollah Ali Khamenei s'est ainsi exprimé quelques jours après le lancement par les Européens d'un système de troc permettant de contourner les sanctions américaines.
En France, des gilets jaunes dans le sud-est ont annoncé qu'ils vont s'élancer dans une marche pacifique jusqu'à Paris. Ils espèrent être rejoints par des cortèges d'autres régions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
En Guinée, le secteur du transport maritime a reçu 15 millions de dollars de deux institutions néerlandaises. C'est un prêt sur 5 ans dont les conditions et taux d'intérêt n'ont pas été dévoilés. Guinea Transshipment Company, une firme spécialisée dans la fourniture de solutions logistiques dans le transport maritime, devrait utiliser cet argent pour acquérir des engins de transbordement des cargaisons de gros navires amarrés en eau profonde afin de développer ce secteur en Guinée. Rio Zim, deuxième producteur d'or au Zimbabwe, suspend à nouveau la production de ses trois mines à cause des paiements de l'art américain que la banque centrale du pays n'a pas effectué pour payer ses livraisons d'or. Les producteurs d'or zimbabwéens vendent leur production à cette banque et sont supposés recevoir 55% de leurs revenus en dollars américains. Rio Zim déclare que les retards dans les paiements affectent sa viabilité. Si les négociations échouent, la société menace de fermer définitivement ces mines et de poursuivre la banque en justice. La société aurifère sud-africaine Harmony Gold vient d'annoncer que son bénéfice par action pour le premier semestre de 2019 pourrait être inférieur de 97% à celui de 2018. Une charge d'amortissement de 915 millions de randes, une diminution des gains sur ses produits dérivés et une conversion défavorable à des devises sont parmi les facteurs qui pèsent négativement sur ses bénéfices.
Voilà, c'était donc Jacques Aristide pour la Minute Éco.
Sans transition, un regard sur le monde sportif. Yakuba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Voilà, on parle de la CAN des moins de 20 ans. Le Nigeria élimine le pays hôte.
Oui, Eric, condamné à l'exploit pour atteindre les demi-finales, le Niger a été éliminé par le Nigeria qui l'a battu 1-0. Lors de la dernière journée du groupe A, le ménage junior a plié sur un but d'Ibrahim Alassane en fin de match à la 73e et termine donc à la 3e place du groupe, synonyme d'élimination. De son côté, disons, le Nigeria finit premier et se qualifie à la fois pour les demi-finales de la compétition et pour le mondial des moins de 20 ans en compagnie de l'Afrique du Sud qui a battu votre Burundi, Eric, 1-0.
Inham Mourgama, donc, qui tombe demain, le Ghana sera à l'épreuve du Mali.
Oui, le Mali et le Ghana s'affronteront au stade Sénou Koutché de Niger à 15h30 en temps universel pour une place en demi-finale et en Coupe du Monde. Dans le dernier match de la poule B, les deux sélections ont 3 points chacune. L'équipe qui va gagner prendra directement le second billet réservé à ce groupe. Écoutons le coach des Aiglons du Mali, Mamoutou Kané, dit Mourlé.
S'il faut jouer 5 matchs, il faut passer par là. On compte jouer les 5 matchs, donc c'est une finale pour nous. Il faut la gagner. Et nous serons en mesure de mettre tous les atouts de notre côté afin de déstabiliser cette équipe, afin de les perturber pour que vraiment on puisse avoir la faille. Et aussitôt, l'occasion, la première occasion qui se présente pour qu'on puisse marquer et se mettre un peu à l'abri. Il n'y a pas de blessés, à part Mohamed Camara qui est le capitaine qui est blessé. Il n'y a pas d'autres joueurs à l'infirmerie.
C'était donc Mamoutou Kané Dimourlé au micro de notre correspondant Siaka Traoré sur place au Niger. L'autre match de la poule B se jouera au même moment à Maradi entre le Burkina Faso éliminé et le Sénégal déjà qualifié pour les demi-finales.
Et le monde du football rend hommage à Emiliano Sala, l'attaquant de Rennes qui a déjoué à Cardiff.
Oui, Eric, l'attaquant de Nantes plus tôt, le corps récupéré dans l'épave de l'avion qui avait disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier, a été identifié comme étant celui du footballeur argentin. Les raisons de l'accident restent inconnues. La disparition d'Emiliano Sala, 28 ans, alors qu'il rejoignait son nouveau club 2 jours seulement après son transfert, a provoqué une vague d'émotions et d'hommages. Tant à Nantes, le club d'où il évoluait, disons, depuis la saison 2015-2016, qu'à Cardiff, la formation dont le joueur et les supporters l'attendaient pour relancer une saison mal engagée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Nouvelles accusations graves contre l'armée burkinabé, selon un témoin joint ce soir par VOA Afrique dans le nord du pays. Les forces de l'ordre ont abattu froidement des dizaines de civils. Les faits se sont passés la semaine dernière. Selon Abdulrahman Bari du village de Ban, l'armée a organisé un ratissage dans plusieurs villages, passant souvent de maison à maison pour abattre froidement des civils. Suivez.
Moi, je me trouve à Ban. C'est exactement là où les exactions se sont passées dans la nuit du 3 au 4 février et où l'armée régulière est arrivée autour de 23 heures et au même moment, toutes nos téléphonies étaient coupées.
Vous parlez de quelle armée ?
C'est l'armée régulière burkinabé.
Mais l'armée dit qu'elle a utilisé des avions et a tué 146 djihadistes.
Aucun avion n'a survolé officiellement ces territoires. Ils ont été réveillés entre 2h à 4h du matin. Chacun a été réveillé devant sa femme et ses enfants et ont été abattus. Et parmi eux, il y a un qui est rentré de la Côte d'Ivoire le dimanche, après être absent pendant plus de 3 ans, qui revenait voir son papa. Et c'est la même chose, il a été abattu comme ce vieux de 70 ans, malade, couché, qui a été réveillé et tué. Et aucune arme ne se trouve au domicile même des gens qui ont été abattus chez eux. Ils n'ont pas été abattus sur les terrains d'opération. Ils ont été abattus bien et bien chez eux, à l'intérieur de leur maison, après avoir tapé la porte. Le monsieur sort et une balle dans la tête est terminée. Et je pense que les enquêteurs viendront confirmer ce que je suis en train de vous dire. Et parmi tous ceux qui ont été abattus, aucun, nous avons cette confirmation, aucun n'avait un lien parce que ça fait pratiquement 12 mois qu'il n'y a pas eu d'attaque terroriste à Ban. 12 mois. Et à la présence même d'une unité militaire à l'intérieur de Ban que nous appelons quotidiennement un détachement. Et ce détachement-là est là-bas et vit en symbiose avec la population. Il n'y a jamais eu d'attaque terroriste à Ban depuis plus de 12 mois. Et ça nous a surpris que l'armée régulière arrive. Nous sommes tous là-bas et chacun, et tout un chacun, en tout cas, connaît ce qu'est l'autre.
Et quelle est la situation qui se passe actuellement?
Actuellement, les gens sont en train de se cacher un peu partout aussi, parce que c'est pas à Ban. Dans les 3 autres villages qui sont situés, les gens sont en train de se cacher dans la nature parce qu'ils ne savent exactement pas s'il y aura encore un retour, parce que c'est la même communauté qu'à Yirgou. Donc les gens sont apeurés et se cachent actuellement en brousse une fois la nuit tombée et ne reviennent au village que le jour. Et très difficilement, ils s'en remettent parce qu'aujourd'hui, c'est les droits et toute la communauté en pleure. Et si c'était des terroristes, je pense qu'on n'allait pas constater cela. Ils n'ont pas été tués par des avions de l'armée. Ils ont été bel et bien abattus par des militaires burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans Ban ville seulement. Par exemple, quand vous prenez Ban, il y a eu 14 tués. Et Tiadewal, qui est notre village, ça fait 15. Soumana, ça fait 12. Et vous avez encore Taria, qui fait 13. Niti, ça fait 2. Donc, nous avons 57. Et c'est la même communauté.
Voilà, c'était Abdourahman Bari du village de Ban. Le gouvernement dément catégoriquement ces informations. Pour porte-parole du gouvernement, l'armée burkinabé est professionnelle. Rémi Djandinou a été joint à Ouagadougou par Idriss Fall.
Nous avons 3 opérations qui ont eu lieu en représailles au fait que des groupes terroristes sont arrivés dans un village et en ont tué 14 personnes. Les forces de défense et de sécurité nationale ont intervenu de façon terrestre et maritime sur 3 sites où nous avons la localisation de terroristes. Il s'agit donc de Ban, de Kain et de Gomboro. Avec les opérations de portée aérienne qui ont bombardé des grottes où étaient réfugiés les djihadistes, avec justement les affrontements et l'encerclement de ces djihadistes-là, nous avons obtenu donc la neutralisation de 146 personnes. Je rappelle que notre armée est une armée qui respecte les règles d'engagement, qui proportionnalise donc la force qu'elle utilise, et que c'est une armée aussi qui a à son intérieur une inspection générale qui vérifie donc les opérations qui sont en cours. Et à chaque fois que nous avons été confrontés à des situations où il y a eu des populations qui ont exprimé un certain nombre d'avis, nous avons engagé donc les enquêtes nécessaires pour prendre en compte ces aspects-là. Donc je n'ai aucune inquiétude sur cette question. Notre armée a fait son job. Et si jamais il s'avère que dans ce job il y a eu des manquements, il y aura nécessairement un rattrapage. Mais pour l'instant, je vous dis qu'il s'agit effectivement d'une opération sur 3 sites, Gomboro, Kain et Ban, qui ont permis la neutralisation de 146 terroristes.
Témoignage qu'on a eu parle de personnes froidement abattues et au milieu de la nuit.
Ben, ça, ce sont vos témoignages. Vous savez que vous êtes journaliste et que l'on confronte les sources. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de témoignages exprimés dans une situation où vous avez des populations qui s'opposent les unes aux autres. On peut se contenter de témoignages et tirer sur la probité et l'intégrité d'une armée. Je pense qu'il nous faut des enquêtes pour vérifier ces dires-là. Mais je rappelle que notre armée respecte les règles d'engagement et que les témoignages n'ont pas foi d'éléments de preuve en justice.
Le gouvernement va engager des enquêtes sur ces accusations-là, éventuellement.
Ce qui est paradoxal, c'est que les associations dont vous parlez n'ont porté aucune accusation au niveau de l'État burkinabé. Donc si elles le font, l'État burkinabé assumera. Je pense que lorsque nous faisons la guerre aux terroristes, lorsque les terroristes tuent les burkinabés, nous n'avons pas besoin d'entendre d'autres personnes pour nous donner des injonctions sur ces aspects-là. Donc les personnes qui se sentent atteintes parce qu'elles ont des preuves, qu'elles les portent devant la justice burkinabé, vous savez, c'est l'une des justices en Afrique de l'Ouest qui fonctionne le mieux. L'État burkinabé a été plusieurs fois sanctionné par la justice burkinabé, ces décisions qui ont été prises. Nous n'avons aucune inquiétude là-dessus. Si les personnes ont des éléments de preuve, qu'elles les portent devant la justice et la justice fera le travail qui requiert.
Rémi Dandjinou, porte-parole du gouvernement burkinabé.
Dans l'Amérique et vous, ce vendredi 8 février 2019, à partir de 19h, temps universel sur VOA Afrique, nous revenons sur le traditionnel discours de l'État de l'Union que le président Donald Trump a prononcé mardi. Une allocution solennelle où le président américain a abordé plusieurs sujets comme le mur et l'immigration, le boom de l'économie ou la lutte contre le sida qu'il veut éliminer d'ici 10 ans aux États-Unis. Réagissez en direct en appelant le 001-202-205-2633. Vous pouvez également laisser vos commentaires et vos coordonnées sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons en direct à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Au Tchad, le mouvement patriotique du Salut, le MPS, parti au pouvoir, s'en prend au parti politique de l'opposition qui condamne la France d'avoir bombardé au début de la semaine la colonne des rebelles tchadiens dans la partie nord-est du pays. Pour l'opposition, la France ne doit pas s'ingérer dans la guerre tchado-tchadienne. André Kodmajinga, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Le MPS parti au pouvoir s'en est pris violemment au parti politique de l'opposition qui dénonce le fait que la France ait pilonné la colonne de rebelles tchadiens de l'Union des forces de la résistance dirigée par Timon Erdemi, neveu du président Déby. Pour le parti au pouvoir, condamner l'action de l'armée française qui a permis d'anéantir une colonne d'aventuriers terroristes venant de la Libye, se faire collision avec une rébellion armée qui tente de porter atteinte aux institutions et à la souveraineté nationale. À ce titre, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Mohamed Zenbada est le secrétaire général du MPS.
Il y a des accords entre les États. L'opération Barkhane couvre un certain nombre de pays. Et leur rôle est justement de combattre le terrorisme. Si une colonne pénètre au Tchad et que cette colonne-là n'est pas une colonne de l'armée tchadienne, il est tout à fait normal que les gens interviennent. Alors si un parti politique s'offusque, c'est soit par méconnaissance de la chose, soit par complicité.
Pour le président du parti pour le rassemblement et l'équité au Tchad, Maître Bongoro Théophile, c'est un jugement excessif de la part du pouvoir de penser que l'opposition fait l'apologie des groupes armés et que la coopération dont il est question ne prévoit pas l'implication de la force Barkhane dans la guerre tchado-tchadienne.
Nous disons qu'il faudra que le pouvoir développe les conditions de sorte à ce que la démocratie s'exerce dans sa plénitude. Il n'est pas tard dans la mesure où la France va user de son influence pour dire « Écoutez, moi, ce n'est pas tous les jours que je viendrai à votre secours. Entendez-vous de sorte à ce que chacun puisse parler. » Nous, on a pris soin de jeter un coup d'œil sur les différents accords en matière militaire et de défense qui lient notre pays à la métropole française. Nous n'y avons trouvé aucune trace de ce qui s'est passé dernièrement. La France a répondu à la demande d'un ami. Mais on aurait pu faire mieux que d'avoir un parti pris comme ce fut le cas.
L'Union nationale pour le développement et le renouveau, deuxième force politique au Tchad, réitère sa position face à l'intervention française dans la guerre tchado-tchadienne. Pour le premier vice-président de l'UNR, Célestin Toponan, seul le dialogue inclusif peut sortir le Tchad de cette situation.
Si on nous avait écoutés, on aurait dû réussir un dialogue inclusif l'année dernière. Toutes les propositions que nous avons faites ont été automatiquement rejetées. Une fois de plus, nous condamnons l'intervention de la France dans les affaires intérieures du Tchad. Nous sommes pour un véritable dialogue inclusif pour savoir pourquoi, 30 années après la prise du pouvoir de MPS, l'instabilité continue. Nous ne faisons l'apologie d'aucune rébellion. Donc les propos outranciers du secrétaire général du MPS n'engagent que l'intéressé et son parti.
Selon le porte-parole de l'armée tchadienne, les rescapés du bombardement français sont neutralisés et l'opération de ratissage se poursuit sur le terrain sans donner le bilan exact de cet affrontement. André Kodmajinga N'Djamena, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Fin de notre série de portraits des candidats à la présidentielle au Sénégal. Ce soir, gros plan sur le président sortant, Macky Sall. Il est l'homme que l'opposition veut absolument battre dans ce scrutin. Et si l'opposition fait front pour gagner ce pari, le président mise sur son bilan pour convaincre les électeurs sénégalais. Son portrait avec Seydina Abagui, notre correspondant à Dakar.
Macky Sall a su s'imposer en 2012 pour battre son mentor Abdoulaye Wade au second tour de la présidentielle. Le 25 mars 2012, il accède à la magistrature suprême.
Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
À 51 ans, il devient le premier président né après les indépendances. Ingénieur géologue et géophysicien diplômé de l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, Macky Sall est un pur produit du système éducatif sénégalais. Issu d'une famille modeste, le natif de Fatick est très tôt repéré par Abdoulaye Wade. En mai 2001, il est nommé ministre des Mines, de l'Industrie et de l'Hydraulique. C'est le début d'une rapide ascension politique. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des Collectivités Locales, porte-parole du gouvernement, premier ministre puis président de l'Assemblée nationale, Macky a occupé presque tous les postes au sommet de l'État. Mais brusquement, son cheminement avec le président Abdoulaye Wade prend une mauvaise tournure. Il avait décidé de convoquer son fils Karim Wade à l'Assemblée nationale pour une audition sur les travaux de l'Agence nationale de l'organisation de la conférence islamique. C'est la rupture. Son poste de numéro 2 du PDS au pouvoir est supprimé. Le mandat du président de l'hémicycle est réduit de 5 à 1 an. Il est accusé de blanchiment d'argent avant d'obtenir un non-lieu. Touché dans son orgueil, Macky Sall claque la porte de l'Assemblée.
J'ai choisi de me départir de toutes les fonctions obtenues sous les couleurs du PDS.
Avec une trentaine de cadres du PDS, il lance sa propre formation politique nommée Alliance pour la République. Homme de conviction, rigoureux dans le travail et persévérant selon ses proches, Macky Sall arrive au pouvoir en déclarant sa ferme intention de servir la patrie avant le parti. Il crie haut et fort sa volonté de gouvernance sobre et vertueuse. À son accession à la magistrature suprême, il annonce sa volonté de prendre des mesures fortes, parmi lesquelles celle de réduire le mandat présidentiel.
J'ai décidé de ramener à 5 ans le mandat de 7 ans pour lequel je suis élu.
Macky Sall traîne également des défauts. Il est jugé impulsif, manquant de sérénité et surtout acceptant difficilement les critiques selon ses opposants. Il est aussi jugé comme un obsédé du pouvoir et limité dans le discours. L'homme des grandes réalisations, comme l'appellent certains, Macky Sall profite de cette période de campagne électorale pour inaugurer plusieurs infrastructures. Pour autant, Macky Sall est confiant. Il défie ses adversaires comme le font les champions de lutte dans les arènes sénégalaises. Une manière pour lui de montrer qu'il compte réussir la passe de deux au soir du 24 février 2019.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, Tian Wang à la console, à la présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde d'aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous.
VOA Afrique.